Une semaine formidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'une semaine formidable. Je vous présente nos invités du jour, Ricardo Baroni, Eric Figuère et Pierre Forest. Messieurs, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Évidemment, nous parlerons de football, de rugby, un petit peu de golf. Nous parlerons Formule 1 également et puis cyclisme parce que c'est le Tour de France. Bien évidemment, on va commencer quand même par ce qui a fait et ce qui fait l'actualité de ce lundi. C'est cette finale de Coupe du Monde et cette victoire de l'Espagne, 1-0 ce matin face à l'Argentine après prolongation. L'Espagne, deuxième fois championne du monde. Eric Figuère, logique sur la compétition et sur le match de ce matin ?
Alors, la première des choses à dire, c'est que l'équipe la plus forte du tournoi et l'équipe la plus forte actuellement au monde a gagné. Donc, c'est quand même une très bonne chose, d'accord ? Et puis, on a assisté hier à... Je suis assez dur lorsque je dis ce que je pense. On a assisté hier, entre la France et l'Angleterre, au premier match de la honte. Et on a assisté ce matin au deuxième match de la honte. Alors, pas parce que c'est une finale de Coupe du Monde, bien évidemment, mais parce que c'est une finale de Coupe du Monde et que les Argentins ont osé présenter un football qui n'a rien à voir avec le football, qui n'a rien à voir avec le sport, d'ailleurs. Hein, sinon, on fait même pas un match de boxe, puisque les boxeurs ont des règles bien établies qu'ils respectent, et lorsqu'ils ne les respectent pas, ils sont sanctionnés. Et aujourd'hui, on assiste dans le monde du football, et particulièrement pendant cette Coupe du Monde, à des matchs qui n'en sont pas, à du football qui n'en est pas, et à des fautes qui ne sont pas sanctionnées. Moi, j'ai eu honte pour le football et pour mon football que j'aime depuis ma naissance, auquel j'ai énormément donné, qui m'a énormément donné. Et aujourd'hui, après ce match d'hier et ce match de ce matin, j'en viens même à me demander si j'ai envie de continuer à regarder du football. Mm-hmm. C'est pour dire. Mm-hmm. Et j'ai mangé, dormi, rêvé, vécu football pendant une grande partie de ma vie. Et là, aujourd'hui, j'en ai un petit peu des trémolos dans la voix, mm-hmm, parce que c'est insupportable. Alors, heureusement, comme je l'ai dit en préambule,
le football a quand même gagné.
Alors le football non, mais en tous les cas, le respect des valeurs, le respect des valeurs que véhicule l'équipe d'Espagne, mm-hmm, qui joue de la même manière depuis maintenant très longtemps, qui a glané sa deuxième étoile après 3 titres de champion d'Europe des nations, ça commence à faire un beau palmarès, qui joue toujours de la même manière et qui joue un football très très agréable, même si de temps en temps on peut se poser la question d'une possible stérilité dans le nombre de passes, etc. Mais en fait, ça sert à mettre hors de position les adversaires, ça sert à les fatiguer, mm-hmm, ça sert à poser son jeu et à poser ses actions et à gagner les matchs. Ils sont sur une série record de 28 matchs sans défaite en compétition. Ça n'a jamais été fait ni en Europe ni ailleurs dans le monde, au niveau d'une sélection. Donc l'équipe d'Espagne était une belle équipe. Ils ont su ce matin garder leurs nerfs, parce que, j'y reviens encore une fois, je ne vais pas faire toute la soirée là-dessus, mais ce qu'on a vu était innommable. Voilà, des coups, des trucages, enfin tout ce qu'on peut imaginer de très laid. Voilà, ça a été très laid. Une première mi-temps sans relief. Les Espagnols n'ont pas proposé grand-chose. On pouvait comprendre quand même pourquoi. Le match était tendu, c'était une finale de Coupe du Monde, les Argentins ne présentaient rien. Je rappellerai que les Argentins ont frappé au but à la 117e minute,
c'est ça,
pour la première fois.
Ouais.
Donc ça montre à quel point ils ont proposé un football digne d'une finale de Coupe du Monde. Mm-hmm. Donc c'est honteux. Et puis c'est honteux de continuer à penser que ça fait partie de leur ADN, que c'est la fameuse grinta sud-américaine. Il y a des tas d'autres sports où les sportifs ont du tempérament, parce que la grinta c'est ça en fait, hein, c'est le tempérament, et qui pour autant, même si quelquefois ils vont à la limite de ce qu'il est possible et de ce qui est proposable, quand ils la dépassent cette limite, ils sont sanctionnés. Dans le football d'aujourd'hui, dans le football de la FIFA de Gianni Infantino, je suis désolé parce que Ricardo est avec nous et il est italo-suisse également comme Gianni Infantino, ça n'a évidemment aucun rapport, mais de ce que aujourd'hui la FIFA nous propose et de ce président-là, je trouve que tout va vraiment de travers. Alors, c'est pas lui qui joue, hein. C'est pas lui qui propose ce football-là, c'est bien les nations en l'occurrence, ou certaines équipes, mais plutôt les nations, et surtout de les laisser faire. Alors, je ne jetterai pas l'opprobre sur un arbitre, et l'arbitre de la finale en l'occurrence, même s'il a été pour moi à côté de ses pompes, mais c'est l'arbitrage en général, ce qu'on leur permet de faire, Et ça, malheureusement, on ne les met pas dans les meilleures conditions. Mais ils pourraient aussi, et ça, pour le coup, c'est encore un Italien, Gianluigi Collina, qui est un des, peut-être le plus grand arbitre de tous les temps, très probablement. Donc sa valeur n'est pas à discuter. Mais pour le coup, lui qui est responsable de l'arbitrage aujourd'hui devrait vraiment, après cette Coupe du Monde, poser les problèmes et prendre enfin les bonnes décisions pour qu'on ne revoie plus ça. Parce qu'on est des centaines de millions d'amoureux du football et du sport. Et quand on a regardé cette finale, on s'est dit, c'est ça le foot.
Pierre ?
Oui, je partage tout à fait les propos d'Eric concernant ces deux, trois derniers matchs vraiment qui un jeu pourri. Et la question, c'est est-ce qu'on avait un arbitrage vraiment à la hauteur ?
J'ai l'impression qu'on se pose systématiquement la question tous les 4 ans.
Seul peut-être qui a survécu, parce que je l'ai vu arbitrer, c'est l'arbitre français. Mm-hmm. Là, il y en avait un qui a arbitré au rang central. Mm-hmm. Mais quand on voit qu'il y a 4 arbitres, il y en a 3 avec un quatrième en bas sur le terrain, il y en a 3 là-haut à la VAR, etc. Voilà. Et puis tout le monde rouspète. Il y a des tacles, il y a du jeu dangereux qui n'est pas sanctionné. Évidemment, ça monte crescendo. Mais cela dit, ça n'enlève pas le mérite, je crois, du champion du monde. Dis que le football a gagné, je suis tenté de dire oui, puisque la meilleure équipe de ce tournoi a gagné. Quand on regarde, ils ont battu, je crois, en 32e, il me semble, l'Autriche, après le Portugal, après la Belgique. Le seul but qu'ils ont encaissé, d'ailleurs, de tout le tournoi, c'est contre les Belges. Ensuite, la France en demi-finale. Et puis maintenant, l'Argentine, championne du monde. Donc oui, là, heureusement que l'Espagne a gagné. Parce que...
Je pense qu'on ne leur donne pas tout simplement aux arbitres, excuse-moi Pierre. La plupart des arbitres sont bons et encore une fois, il n'est pas question de jeter l'opprobre sur les arbitres qui remplissent des missions vraiment très 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 difficiles et encore plus difficiles au plus haut niveau comme ça. Mais c'est le système de l'arbitrage qui n'est pas bon et qu'il faut revoir parce qu'aujourd'hui, ça va tellement vite, c'est tellement compliqué. Ils étaient censés se faire aider par l'assistance vidéo, et en fait on se rend compte que c'est ni fait ni à faire, que c'est un coup oui, un coup non, que c'est un coup il y a un cheveu qui dépasse, et un coup voilà, et là ça veut vraiment vraiment plus rien dire, et on a beau les voir avant le début du match, ça me fait toujours sourire quand on voit avant le début du match, ces trois arbitres de l'assistance vidéo qui sont là bras croisés, l'air martial, et quand on voit ce qui se passe après je me dis que, alors l'arbitre de cette finale était très content, il en a pleuré d'être désigné, et je le comprends d'ailleurs, parce qu'arbitrer une finale de Coupe du Monde, ça doit être absolument génial et un aboutissement pour les arbitres. Mais proposer ça, moi je suis désolé. Alors oui, c'est vrai, les consignes pour moi ne sont pas les bonnes, le système n'est pas le bon. Mais quand il y a des fautes aussi flagrantes d'anti-jeu, physiquement répréhensibles, on distribue des cartons tout de suite. Voilà. Et puis s'il doit y avoir un expulsé au bout de 10 minutes, il y a un expulsé au bout de 10 minutes. Si tous les arbitres et le système de l'arbitrage commençaient à régler ces problèmes-là, les ceinturages, les accrochages dans les surfaces, l'anti-jeu. Alors l'anti-jeu pour les fautes prétendues, ça a été réglé un petit peu pendant cette Coupe du Monde, puisque en laissant jouer beaucoup, ça a quand même beaucoup, ça a réglé pas mal de problèmes. Mais pour tout le reste, voilà. Bon, heureusement, une belle équipe d'Espagne. Voilà, parlons un peu du jeu. De très beaux joueurs, une très grande technicité. Ça fait quand même plaisir. Je pense qu'on va continuer à les voir un petit peu. Je ne sais pas s'ils réussiront à gagner le prochain championnat d'Europe. Ne doutons pas que l'équipe de France de Zidane sera compétitive. Voilà. Même si officiellement, il a pas encore pris ses fonctions. C'est un débat avec sans doute des Cherki magnifiques d'attitude irréprochable. Voilà. Donc on verra ce que ça va donner.
Ricardo.
Je viens d'écouter. Je suis loin d'être un puriste. Et je vais parler du verre à moitié plein et pas à moitié vide de cette finale. Ça m'a plu. Il y a certaines choses qui m'ont plu. Ils m'ont plu le capteur qui a été mis à l'intérieur du ballon. Je trouve ça que c'est une évolution vraiment positive. Le spectacle à mi-temps, quand on voit un buggy arriver avec Ronaldo et Ronaldinho, je trouve ça exceptionnel.
Oui, c'est
et
le Super Bowl version football. Oui.
Voilà, j'ai trouvé ça vraiment. Après, il y a eu d'autres chansons, spectacles très intéressants. Je pense que si cette finale a été faussée, il aurait fallu que, pour avoir du positif, que l'Espagne marque plus tôt de ce match. Parce que quand ils ont marqué, on a vu une Argentine qui a changé, quoi. Ça a été vraiment une Argentine qui a fait une fin de match avec des attaques et une égalisation n'aurait pas été un scandale. Je pense qu'ils voulaient faire comme contre la France, aller en finale et essayer de gagner au pénalty.
On parle pas beaucoup du jeu, finalement. On est en train de commenter une finale de la Coupe du Monde. Et ce qu'on retient, c'est le mauvais jeu des Argentins. C'est la VAR qui sert à rien. C'est l'arbitrage qui est pas à la hauteur. C'est quand même
dommage, mais sans ces conditions, si ces conditions sont pas réunies, il est difficile que les acteurs de ce sport extraordinaire puissent évoluer de la meilleure des manières et puissent proposer un spectacle génial. Comment est-ce possible ? C'est juste pas possible. Donc, heureusement, on a vu quand même, et pour le coup, moi qui étais un peu critique sur les 48 nations à participer à ce mondial, je pensais que c'était trop haut et que ça nivellerait le niveau par le bas. Ça n'a pas été le cas, à mon sens. Il n'y a pas eu que des grands matchs, bien sûr, mais il y a eu beaucoup de buts, 3 buts par match pendant les phases de poule. C'était bien. Il y a eu, je trouve, beaucoup de spectacles, très peu de ce qu'on appelle des purges, très peu de matchs sans aucun intérêt, avec aucun spectacle. Donc, j'ai trouvé finalement que globalement les matchs avaient été intéressants, et ça c'est plutôt à noter. La plupart des grandes stars du football se sont montrées à leurs avantages, ça c'est plutôt bien, et que Yamal, qui avait eu un peu de mal et qui a été mieux sur les deux derniers matchs, même s'il n'a pas réussi à marquer.
En fait, ce matin on le voit pas, hein.
On l'a vu un petit peu, mais c'était difficile. Après, c'est très difficile de jouer contre des joueurs aussi rugueux, une organisation défensive comme celle-là. Franchement, c'est pas facile, même pour ces joueurs qui sont, qui sont juste géniaux. Donc voilà, c'est pas...
J'aimerais qu'on évoque l'équipe de France, parce que l'équipe de France termine à la 4e place de ce mondial, après une défaite 6-4 face à l'Angleterre. Alors, c'est pas un score de tennis, mais voilà. Dernier match très très curieux de l'équipe de France, et je me permets de dire que je trouve que les joueurs n'ont pas remercié franchement tout le boulot de leur sélectionnaire et Didier Deschamps. On en parle avec Pierre, et après je te redonne la parole, Eric.
Je crois d'abord qu'ils n'ont surtout pas respecté le maillot de l'équipe de France. Et ils n'ont pas respecté les deux étoiles qu'il y avait déjà dessus, de la part des anciens. Je crois que être mené 4-0 avec une facilité et encore...
À la mi-temps.
Et encore, on aurait pu s'en prendre 6 avant, à la mi-temps. Je trouvais ça vraiment d'une... Ou alors, c'est un match qu'il ne fallait pas disputer. Il valait mieux faire forfait. C'est un petit peu le...
Bon, mais ils auraient perdu 3-0 à forfait.
Après, même s'il y a une très belle deuxième mi-temps, mais ça n'enlèvera pas cette première mi-temps catastrophique qui était même à la limite de l'humiliation.
Tu as tout à fait raison, Pierre. Malheureusement, cette deuxième mi-temps qui était très enjouée, qui a vu de jolis buts de l'équipe de France, pas mal de beaux mouvements, malheureusement n'effacera pas ce qui s'est passé en première période. Et tu as parlé d'abord du non-respect du maillot, le non-respect, l'absence de respect des anciens qui sont passés avant eux, l'absence de respect du sélectionneur qui finissait la compétition là-dessus.
C'était son dernier match.
Soi-disant tous respectés au plus haut point, aimés, etc., etc. Ils n'ont pas respecté leur sport, ils n'ont pas respecté le football, ils n'ont pas respecté le jeu, ils n'ont pas respecté tous les enfants, les dizaines de milliers, les centaines de milliers de jeunes qui jouent au foot et qui rêvent d'être un jour à leur place. Ils n'ont respecté personne, ils n'ont pas respecté les spectateurs, les téléspectateurs, les Français qui croient en eux, qui les supportent. Voilà, alors on peut passer à côté d'un match, la question n'est pas là, on peut passer à côté d'une mi-temps. Alors, ça n'était jamais arrivé, ou si c'était arrivé dans les années 30, mais c'était jamais arrivé depuis qu'une équipe de France passe à ce point au travers. Donc bien sûr qu'on peut passer au travers, bien sûr que les adversaires peuvent être extraordinaires, et que bien sûr, mais en fait on a tous vu, on a tous des yeux, pour la plupart, et on a tous vu ce qui s'est passé en première mi-temps, l'absence de motivation, l'absence d'engagement, l'absence de tout. Alors, tous n'étaient pas logés à la même enseigne, c'est vrai, mais il y avait au moins la moitié de l'équipe qui était... qui n'avait rien à faire là, et je pense que quand on porte le maillot de l'équipe de France, quand on fait rêver comme ça, et quand on est aimé, adulé, comme ils le sont, déjà, ils ne supportent jamais la critique. Déjà, c'est très embêtant, j'en parle assez régulièrement. Ils ne supportent pas la critique, on ne peut rien dire d'eux. Dès qu'on dit quelque chose d'eux et qu'ils marquent un but, ils se présentent devant les spectateurs en montrant les oreilles, en mimant la bouche pour la fermer. Voilà, c'en est proprement ridicule. Et quand on montre ce qu'ils ont montré, déjà, que malgré les victoires, moi j'avais été un peu critique parce que je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup d'erreurs, et notamment parmi nos mégastars. J'avais dit qu'il fallait élever le niveau pour pouvoir passer l'Espagne et se retrouver en finale de la Coupe du Monde. Ça n'avait pas été le cas en demi-finale, puisque l'Espagne était plus forte que nous, et deux, on n'a pas fait ce qu'il fallait pour pouvoir les déranger un peu. Et puis lors de cette finale pour la troisième et quatrième place, ben voilà, c'était honteux. Alors moi, j'ai pas honte d'être français, hein. J'ai pas honte d'aimer le football, mais par contre, je pense qu'eux, ils devraient avoir honte. Oui. Et ça donne vraiment pas envie de les supporter. Je déteste toujours dire ça, mais quand on voit quelle vie ils mènent, quel argent ils gagnent, ce qui est normal dans le monde d'aujourd'hui, c'est un sport, c'est le sport planétaire, c'est normal. Mais quand on montre ça, non, c'est terrible.
Ricardo.
Je vais encore contredire. Hein.
Tu peux.
Mais...
Il s'est régalé, Ricardo, il a vu 10 buts.
Non, mais j'ai aimé l'équipe de France parce qu'ils étaient tellement déçus d'avoir perdu contre l'Espagne, parce qu'ils étaient convaincus d'aller en finale. Quand on est un sportif de haut niveau et qu'on se prend une claque à ce niveau-là, on se démobilise et ça devient compliqué de se remobiliser pour un match de la 3e, 4e place. Surtout que Tuchel a dit il n'y a personne qui a envie de jouer ce match. Mais moi, ce qui m'a plu au niveau de la France, c'est que la première mi-temps, ils se sont pris une claque, mais ils n'ont pas attendu la deuxième mi-temps. Ils ont commencé à renverser la situation. Et si on allait à un match nul, puisque je crois que c'est Olysée qui rate un tir d'égalisation, il n'y avait rien de scandaleux, puisque quand la France revient après la mi-temps, s'est fait tirer les oreilles par l'entraîneur national, n'est-ce pas ? Et moi, j'ai trouvé que cette révolte des joueurs français était quelque chose de très bien et que ça m'a plu. Après, c'est fini comme c'est fini le match 6-4. Mais si on était arrivé à 4-4 avec prolongation, ça m'a énormément plu. Ça m'a fait penser un peu à la finale d'il y a 4 ans contre l'Argentine, où ils se sont fait marcher dessus le début de cette finale et qu'après, ils se sont révoltés et que pour un tir raté, il manquait peu que ce soit la France qui gagne la finale il y a 4 ans. Donc, je pense qu'il faut leur laisser certaines circonstances, on va dire,
atténuantes. Un peu d'indulgence. Est-ce qu'il y a un joueur de l'équipe de France qui vous aura marqué, Pierre ?
Moi, c'est surtout sur ce dernier match. C'est la rentrée du défenseur du Bayern, Upamecano.
Ouais.
Extraordinaire. Voilà ce genre de gars qu'il fallait peut-être faire rentrer plus tôt à la mi-temps ou le faire jouer toute la... Parce qu'il a des valeurs, lui. Vraiment, c'est vraiment quelqu'un que j'ai adoré pendant tout le tournoi, d'ailleurs. Il a été d'un excellent niveau, comme il est titulaire au Bayern. Et vraiment, c'est le type de joueur qui... Voilà. Donc, d'ailleurs, il s'est beaucoup rapproché de Didier Deschamps pour le remercier de tout, s'il n'avait pas été là, sur son parcours, etc. Donc, très reconnaissant en plus.
Eric ?
Deux joueurs ont été particulièrement bons pendant la totalité de cette compétition. Mm-hmm. C'est Dayot Upamecano, comme vient de le dire Pierre, qui a vraiment été très très fort. Et ce qu'il a montré pendant cette petite finale... l'a confirmé. Adrien Rabiot, qui a fait une Coupe du Monde vraiment de très très haut niveau, et on n'en parle pas assez. J'ai trouvé que le gardien Mike Maignan, après un premier match un peu hésitant, a fait vraiment du très bon travail. Et après, c'est le paradoxe de cette équipe de France. L'Espagne avait dit que l'équipe de France avait les meilleures individualités et avait perdu contre la meilleure équipe du monde. Mm-hmm. Le paradoxe, c'est qu'on a le meilleur buteur et le meilleur passeur de la compétition. Hey. Le meilleur buteur a 10 buts, ce qui est quand même pas si souvent le cas de marquer 10 buts dans la compétition. Il en est aujourd'hui à 22, c'est Kylian Mbappé bien sûr, qui est aujourd'hui le buteur le plus prolifique en Coupe du Monde de l'histoire. C'est pas rien, et il va continuer à augmenter ce chiffre. Et Olysée qui est le meilleur passeur avec 7, donc c'est quand même tout à fait exceptionnel. Alors ces deux garçons sont justement tellement exceptionnels qu'on est très exigeant avec eux et on est évidemment déçus qu'ils aient pas fait plus. Alors c'est difficile à dire parce qu'ils ont fait quand même énormément, mais ils auraient pu faire un petit peu plus, notamment Olysée qui est passé au travers de ces deux derniers matchs, notamment en demi et puis dans cette petite finale, il est vraiment passé au travers, cette petite finale il fait deux passes des en deuxième période, donc c'est quand même à noter. Voilà, c'est les 5 joueurs quand même qui se sont montrés à leur Oui. À leur avantage.
On va conclure sur cette page football avec une question. Que va devenir celui qui va être l'ancien sélectionneur, pardon, Didier Deschamps? Il y avait un petit débat hors antenne avant de commencer l'émission, puisqu'il se dit que Didier Deschamps pourrait rejoindre l'Italie, alors peut-être la Juventus, mais aussi l'équipe nationale italienne. Ricardo, vous dites non?
Non, il y a trois entraîneurs qui sont en négociation avec la Fédé. C'est Mancini, qui souhaite s'excuser de la façon dont il a quitté l'équipe nationale lors de la Coupe d'Europe, qu'il a gagnée avec l'équipe d'Italie il n'y a pas si longtemps, 2021, je profite pour en parler, n'est-ce pas?
Puisque les Italiens y étaient.
Il y a aussi Conte, qui a prouvé avec le Chelsea, avec plusieurs équipes, être à la hauteur d'une équipe nationale. Il a même décidé de baisser son salaire pour essayer de remonter cette équipe nationale italienne qui, depuis trois Coupes du Monde, n'est pas présente. Et il y a un autre, le dernier, qui est Guardiola, que beaucoup d'Italiens souhaitent, dont j'en fais partie, qu'il devienne l'entraîneur de l'équipe nationale. De Deschamps, on en a parlé un petit peu, puisqu'il a joué très longtemps à la Juventus de Turin, qu'il est très apprécié en Italie. Mais je veux dire, ça sera la toute dernière solution. Il y a d'autres entraîneurs qui sont à l'avant de cette négociation avec la fédération, qu'on devrait avoir demain ou après-demain le nom.
Bon, Pierre et Eric, vous le voyez bien, Deschamps, à la tête de l'équipe d'Italie?
On parle de lui, de retour en Italie, puisqu'il a fait la plus grande partie de sa carrière en Italie. C'est aussi à la Juventus, qui ne brille plus comme il a brillé il y a quelques années. Donc, et la squadra, mais si il est mieux placé que nous.
Bien informé.
Bien informé, oui. Il a les tuyaux, notre ami.
Je pense que les trois noms que Ricardo a cités sont de très très bons noms et qui auraient d'ailleurs ma préférence pour la sélection italienne. Je parlais de Deschamps pour la sélection italienne parce que ça se dit dans les milieux, comme on dit, autorisés. Je ne sais pas du tout si c'est lui qui sera choisi et si même d'aventure il en avait envie d'ailleurs, même si je pense que compétiteur comme il est, il apprécierait particulièrement ce challenge. Mais je pense que la priorité à un Italien pour moi serait la meilleure des choses. Deschamps peut lui entraîner ou occuper le poste de sélectionneur partout où il le souhaite. Il a manifestement déjà pas mal de contacts, il n'a pas voulu s'en occuper pendant la compétition. Il a dit qu'il allait voir ça tranquillement et nul doute qu'il ne va pas prendre sa retraite tout de suite.
Ricardo, un dernier mot.
Concernant la Juventus de Turin où Deschamps a joué de longues années, je trouve qu'il y a quand même une grande différence entre être sélectionneur et entraîneur. Il a été entraîneur c'est vrai, de certaines équipes italiennes, Juventus de Turin et de mémoire, il y avait aussi Marseille, non?
Monaco.
Non, Monaco. Voilà, donc je pense qu'entre sélectionneur et entraîneur, il a été sélectionneur de l'équipe de France depuis tellement d'années que ça ne va pas être facile de revenir en tant qu'entraîneur.
C'est pas le même métier, on est d'accord. On va clore ce chapitre football parce qu'on a encore du boulot, puisqu'on va parler rugby, Formule 1, Tour de France et j'en oublie, golf, bien évidemment. Donc on marque une petite page de pub et on revient dans un instant.
RRB, la pub.
Dimanche 2 août, direction le Grand Sud pour le Trail de l'Espoir. Au départ de Parboisé, sur les terres du clan Atiti, vivez un événement sportif festif et solidaire organisé par Pro Events au profit des actions caritatives du Kiwanis Club Mondor. En solo ou en duo, en randonnée ou en chrono, choisissez votre défi. Kids Race, 4 km, 12 km ou 18 km entre forêt, port de mer, Cap Endoua et des panoramas exceptionnels. Et pour prolonger l'aventure, formule immersion avec camping, repas en tribu, petit déjeuner et peut-être même une sortie pour observer les baleines. Le 18 km Solo sera la cinquième étape pro-série du Punch Power Trail Pro Tour. Le Trail de l'Espoir, c'est du sport, du partage et un geste solidaire. Inscription et informations sur www.proevents.nc.
Le tout info continue avec Toyota. Le tout nouveau Toyota RAV4 hybride est à découvrir chez Toyota, à Ducos et à Koné.
RRB, 16h, 19h, le tout info.
Une semaine sportmédable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
La suite d'une semaine sportmédable avec Ricardo Baroni, Eric Figuère et Pierre Forest. On a parlé football. Tiens, on va innover un petit peu. On va prendre les choses dans un autre sens que d'habitude. Et j'ai envie qu'on parle cyclisme.
On commence pas par le golf ?
Non, non, cyclisme, Ricardo. Parce que
on garde le meilleur pour la fin.
Exactement.
Je plaisante, bien sûr. Le Tour de France est au-dessus de beaucoup de choses.
On est bien d'accord. Le Tour de France est l'autre événement planétaire. Il y avait la Coupe du Monde de football, maintenant le Tour de France. On est arrivé à la fin de la deuxième semaine. Et avec ce qui s'est passé cette nuit, Ricardo, et notamment l'abandon de Jonas Vingegaard, on a le sentiment que le Tour de France, il est terminé. Pogacar va gagner tranquillement. Et puis voilà.
Non.
Non,
je pense pas.
Je savais bien que vous ne serez pas d'accord.
Il y a un Paul Sexas qu'on veut savoir s'il peut monter sur le podium ou pas.
Oui.
On a maintenant la deuxième place qui est disponible pour plein d'autres coureurs. Hein. Donc Remco Evenepoel, Del Toro. Il y a beaucoup de coureurs qui visent maintenant la deuxième place. Pourquoi pas aussi Paul Sexas. Quand il y a des étapes, j'ai beaucoup de plaisir à regarder la stratégie de ce coureur qui est assez impressionnante. Non, je pense que c'est loin d'être fini. On va voir aussi comment on va se remobiliser l'équipe de Jonas Vingegaard. Non, je pense qu'il reste encore une semaine de montagne et que ça va être encore intéressant puisque Remco, qui se trouve actuellement deuxième au classement, va essayer de défendre sa place en commençant par, pas cette nuit puisque c'est une étape de repos, mais l'étape suivante avec le contre-la-montre. Il va essayer de creuser l'écart sur ses suivants. Et si les suivants veulent reprendre la deuxième place, il n'y a pas d'autre solution que de l'attaquer. Et donc, non, je pense. Maintenant, pour la victoire finale, c'est vrai qu'on va dire.
C'est ce que j'allais vous dire. Vous m'avez parlé que du deuxième, du troisième et des suivants, des etc. Et la première place, elle est.
Oui,
c'est
mais
fait.
Il a plus de 5 minutes d'avance, donc ça va être compliqué.
Oui, c'est une balade de santé maintenant pour lui.
Oui, mais on a eu une preuve avec Jonas Vingegaard que rien n'est acquis. Jusqu'à l'arrivée sur les Champs-Élysées. Donc, pourquoi pas essayer de gratter des places et essayer d'avancer au classement en espérant que... c'est pas bien de dire en espérant, mais il peut y avoir des retournements de situation où Pogacar se trouve dans un jour de moins bien. Et vu ce qu'il a fait depuis le départ de ce Tour de France, ils lui feront pas de cadeau. Donc non, je pense que oui, c'est... non et oui, avec 5 minutes d'avance.
Avec 5 minutes d'avance, s'il gagne pas...
Oui, c'est compliqué, mais je veux dire, il y a d'autres places sur le classement. Et puis, il y a cette pépite française qui captive pas uniquement les Français. Je veux dire, pour pouvoir lire la presse d'autres pays, c'est quelque chose d'intéressant à 19 ans d'être à ce niveau-là, comme cette nuit, il a suggéré l'étape. Donc non, je pense qu'il reste encore. Et puis, il y a des maillots. Il y a le maillot vert à défendre où le classement, il n'y a pas beaucoup d'écart. La montagne, je pense que ça va être Pogacar, ça va être très compliqué pour Lenny Martinez et d'autres coureurs qui visaient à ce maillot. Il y a le maillot blanc que Del Toro, le Mexicain, vient de le prendre à Paul Sexas. Donc là aussi, il y a un suspense pour ce maillot blanc, il y a un suspense pour le maillot vert parce qu'il n'y a pas de grand écart entre le premier et le deuxième. Donc non, le Tour de France est loin d'être fini.
Eric ?
L'intérêt du Tour de France est maintenu. Tout ce que vient de dire Ricardo est évidemment vrai. L'intérêt est encore là. Il y a tellement de choses encore à se partager et à se gagner pendant ce Tour de France. Maintenant, pour la victoire finale, sauf à ce qui est évidemment un pépin physique, une chute, etc. Aujourd'hui, Pogacar est... Enfin, aujourd'hui, c'est pas d'aujourd'hui. Mais Pogacar est vraiment au-dessus du lot. Il le montre à quasiment chaque étape. Donc il gagnera le Tour, sauf évidemment à ce qu'il lui arrive malheureusement une mésaventure. Mais il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, derrière, c'est fabuleux. Puis il reste des étapes mythiques. Il reste encore beaucoup de vélos. Donc ça va être fabuleux. Quoi.
Oui. Pierre ?
Oui, moi, c'est la participation, le très bon classement du jeune Français, là, Paul Sexas. Ouais. Je me souviens qu'avant le départ du Tour, un mois avant ou deux mois avant, tout le monde, les avis étaient partagés. Est-ce qu'il fallait tout de suite le lancer dans le grand bain ? Est-ce qu'il fallait peut-être pas attendre encore un petit peu ? Et
la preuve, c'est que manifestement, on a bien fait de l'aligner. Est-ce que ça va durer? Alors, c'est un peu une question que je pose à Ricardo, puisque c'est le spécialiste.
Ricardo.
Eh bien, c'est justement là que ça devient captivant, c'est de savoir s'il est capable de tenir une troisième semaine ou qu'il va s'écrouler. Parce que quand j'ai regardé cette nuit en direct, on l'a vu, Paul Sexas se faire lâcher par trois coureurs, dont Remco Evenepoel qui gagne l'étape, si on peut en reparler après, Tadej Pogacar et Del Toro. Il a géré, il arrive avec même pas une minute de retard, donc il peut se passer encore beaucoup de choses avant la fin du tour, comme il peut s'écrouler ou comme il peut récupérer beaucoup mieux que les autres coureurs, et qu'on va le voir à l'avant, par exemple, à la place de Remco Evenepoel, qui a fait une étape extraordinaire.
Mais quoi qu'il arrive, c'est une expérience extrêmement positive pour Paul Sexas, même si ça s'arrête là maintenant, les 15 jours qu'il a fait sur le Tour de France, c'est...
Il aura mis le pied à l'étrier.
C'est que du bonus.
Oui, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. En sachant qu'ils n'ont pas mis toute l'équipe pour lui, puisqu'ils ont gardé quand même deux coureurs supplémentaires pour aider Olaf Koy, qui a déjà gagné une étape. Tandis qu'un coureur comme Tadej Pogacar, il a toute l'équipe pour lui, sans exception, comme Jonas Vingegaard. Donc c'est vrai qu'on lui a donné cette possibilité de s'éclater, on va dire, et de se faire plaisir sur ce Tour de France pour Paul Sexas. On va voir la troisième semaine. C'est la troisième semaine qui est la plus difficile à gérer. Et je pense que l'organisation de l'équipe française Décathlon CMA-CGM est à un niveau assez exceptionnel. Il suffit de voir les autres coureurs de l'équipe qui sont à la hauteur. Donc comme Prodhomme, comme d'autres coureurs. Et donc je pense qu'au niveau organisation de l'équipe, ça vaut la peine. Et moi, je suis assez curieux de voir cette troisième semaine.
Un mot sur la victoire de Remco Evenepoel la nuit dernière.
Oui, donc ça a été une étape assez bizarre, puisque c'était Tadej Pogacar qui courait comme équipier de Del Toro pour qu'il creuse le plus grand écart possible sur Paul Sexas, pour ce maillot blanc et pour le podium à Paris, et Remco Evenepoel qui suivait jusqu'au, on va dire, aux 500 derniers mètres où Del Toro n'a pas réussi à lâcher Remco. Et on a vu donc Remco aller gagner l'étape avec Tadej Pogacar dans la roue. Donc beaucoup disent qu'il l'a laissé gagner. Moi, j'ai eu d'autres informations et j'ai écouté d'autres choses et qui m'ont plu. C'est qu'il trouvait que c'était inacceptable de gagner une étape quand son principal adversaire était tombé avant et avait abandonné. Donc l'objectif de l'équipe UAE, c'était de faire gagner Del Toro. Del Toro gagne pas. Bon, ben... Remco était à la hauteur et était plus fort, donc c'est comme ça que Remco a gagné.
Un dernier mot, Ricardo, sur le Tour de France. Là, c'est journée de repos. Ça reprend pas la nuit qui vient, mais la nuit d'après. C'est un chrono individuel, c'est ça?
C'est un beau contre-la-montre entre Evian et Tenant-les-Bains, avec une pente de 10 km à 4%, et après une descente sur Tonneau. Une descente sur Tonneau. Je pense que Remco va creuser des écarts sur les autres coureurs, puisque le contre-la-montre, c'est sa spécialité.
Bien sûr.
Je pense que aussi Paul Sexas va prendre du temps à Del Toro, puisque faut pas oublier qu'il a été champion du monde dans une autre catégorie, Paul Sexas, du contre-la-montre. Donc là aussi, ça va relancer le suspense, toujours pour l'arrivée aux Champs-Élysées.
Deux choses très rapidement. Paul Sexas a l'air d'être un garçon très intelligent et un sportif très intelligent aussi. Il sait qu'il vient là pour apprendre. Il l'a dit d'ailleurs pour cette étape-là, où à deux, trois reprises, il aurait pu effectivement en mettre un petit peu plus. Et comme justement c'est sa première course de trois semaines, il ne sait pas ce qu'il est capable de faire. Il n'est pas question pour lui manifestement de craquer. Et donc il apprend, il découvre ce qu'il est capable de faire. Et donc on verra... Je pense la dernière semaine, il va sans doute en mettre un petit peu plus. Et puis surtout, on verra l'année prochaine, puisque là, il aura de l'expérience. Et on verra à ce moment-là ce que ça va donner. Et puis très rapidement, Vingegaard a donc abandonné. Il a été contrôlé, il a subi un contrôle antidopage à 2h du matin. Alors, c'est ce qui semble être assez commun dans le milieu du cyclisme. Le leader Pogacar à 5h du matin et Vingegaard à 2h. Alors moi, je suis très surpris d'apprendre. Alors que ce sport-là et tous les autres sports soient très contrôlés, ça c'est une très bonne chose, mais qu'il le soit à 2h du matin, ça me surprend tout simplement. Je n'aimais pas d'avis, mais je suis juste surpris.
Un mot, Ricardo ?
Une question simple. Mmh. Est-ce que à la Coupe du Monde, on a contrôlé les joueurs de foot à 2h du matin?
Ah ben ça, c'est une excellente question. Voilà.
Probablement pas.
Je sais qu'on a fait sauter des cartons rouges avec absolument, un petit coup de fil, absolument. Donc rien n'est impossible dans le football. Pierre Forest, rugby un petit peu quand même, parce qu'il y a ce nouveau tournoi, Championnat des Nations.
Championnat des Nations, donc voilà. C'était la troisième journée.
Exactement.
Donc, six équipes de l'hémisphère nord, c'est évidemment les six équipes du tournoi des six nations habituellement qu'on connaît, et puis six nations plutôt de l'hémisphère sud, évidemment l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, et auquel on a rajouté le Japon et les Fidji.
Voilà, et il y a l'Argentine aussi.
Voilà, troisième journée, donc trois victoires pour les équipes recevantes, donc la Nouvelle-Zélande bien sûr, l'Afrique du Sud bien sûr, l'Australie également, et trois victoires des équipes visiteuses, on va dire ça comme ça, donc la France qui a gagné au Japon. L'Écosse qui est allée gagner à Fidji.
À Fidji, oui.
Et l'Angleterre qui est allée gagner péniblement en Argentine. Mais c'est vrai que l'équipe d'Argentine a été très renouvelée. Donc, voilà.
On a le sentiment que c'est une Coupe du Monde avant la Coupe du Monde.
C'est un peu.
C'est ce que vous disiez tout à l'heure.
En fait, ces tournées-là existent depuis des années. Pour l'hémisphère nord, c'est de descendre après la saison top 14, c'est-à-dire juin, juillet, avant de recommencer la saison en septembre. Et puis, pour les équipes de l'hémisphère sud, c'est de finir la saison au mois de octobre à peu près, de monter en novembre. On a mis ces championnats, donc je ne sais pas trop pourquoi, ça ressemble drôlement à une Coupe du Monde, et sachant que la prochaine Coupe du Monde, c'est l'année prochaine, donc on refait une Coupe du Monde en 2026 avant...
Cette équipe de France, là, sur les trois matchs, vous l'avez...
Alors, il n'y a pas eu tous les éléments, notamment le meilleur joueur du monde, Antoine Dupont, mais il y avait quand même beaucoup de béglés qui ils avaient arrêté avant, ils n'étaient pas qualifiés pour la finale, puisque il y avait un mélange de béglés, de Toulousains, et puis des trucs. Je crois que ce que moi je retiens surtout de cette tournée, c'est que Galtier a osé, et je pense a réussi son pari, de faire jouer ensemble Ntamack et Jalibert, et en proposant notamment, et en faisant jouer Ntamack en 10, avec Lucu, qui est normalement le partenaire idéal de Jalibert, et Jalibert qui a accepté de jouer en 15. Je reste persuadé que avec ces deux charnières, Dupont et Ntamack de Toulouse, et Lucu...
Jalibert
de l'UBB, on a de quoi faire quelque chose à la Coupe du Monde. Donc, n'opposons pas les uns aux autres, mais là, je trouve que l'alchimie s'est faite, et Jalibert s'est prêté, il a dit qu'il préfère jouer en 10, et c'est sa place, son poste préféré, c'est le 10, le demi d'ouverture, mais il a quand même des qualités de course, il porte beaucoup le ballon, il peut faire la différence. Bon, c'est vrai que Ramos était absent de Toulouse en 15, mais là, on a la chance vraiment d'avoir... quatre joueurs à ces deux postes les plus importants, le 10 et le 15.
Et ce championnat des nations reprendra au mois de novembre.
Pour ce qui concerne l'équipe de France, c'est le 7 novembre, on va accueillir Fidji. Le 13, c'est un vendredi. vendredi 13 novembre, l'Afrique du Sud. Ouais. Et là, ça va être le match. Et puis le 21 novembre, l'Argentine.
Voilà.
Petit mot encore sur l'Afrique du Sud. Ils écrasent tout. Là, ouais. ils ont fait trois matchs, trois bonus offensifs avec des joueurs, des nouveaux joueurs, etc. C'est incroyable.
Ils les écrasent pas, ils concassent.
Ils concassent. Voilà, façon puce.
Ils éparpillent façon puce.
Il nous reste deux minutes, messieurs. La Formule 1, on va juste rappeler que Kimi Antonelli, qui est un jeune pilote italien, est en tête du championnat du monde et qui s'est imposé sur le mythique circuit de Spa-Francorchamps. Les cloches n'ont pas sonné à Maranello, mais il y a quand même une Ferrari sur le podium, celle de Charles Leclerc. Je vous avais promis le
golf.
Merci
Lionel, c'est gentil.
Il
reste plus beaucoup de temps, mais on va parler quand même de Ryan Fox.
Ryan Fox,
le golfeur néo-zélandais, le fils de Grant Fox, l'ancien ouvreur des Blacks, champion du monde en 87. Donc Ryan Fox qui gagne ce matin l'aiguillère d'argent, la Claret Jug. Donc le The Open, puisque en Angleterre c'est pas l'Open britannique, c'est The Open. C'est montré à quel point c'est important. Il est devenu le golfeur de l'année, puisque le vainqueur de The Open devient golfeur of the year. Et donc il a gagné ce titre d'une manière absolument fabuleuse. Golfeur de 39 ans qui, comme beaucoup avant lui et comme beaucoup après lui, en a bien bavé dans sa carrière et qui n'a jamais rien lâché et qui aujourd'hui, au prix d'un mental hors du commun, commun, a obtenu ce titre magnifique. Sa carrière aujourd'hui va être bien chamboulée. C'est un superbe sportif, avec certes un physique de rugbyman, mais c'est un super sportif, un état d'esprit, une attitude fabuleuse. Et puis il a été tellement solide, mais vraiment tellement solide. C'est vraiment une victoire formidable.
Pour terminer, coup de cœur, coup de griffe, on commence avec vous, Ricardo.
Alors, mon coup de cœur, c'est pour un ami espagnol, Thomas, qui a été en Nouvelle-Calédonie représentant de la Commission européenne. Mmh. Il m'a envoyé un message qui m'a ému. Il m'a dit, en 2010, j'ai vu la finale de l'Espagne avec mon papa. Et cette année, j'ai vu la finale de la Coupe du Monde avec mon fils. Mmh. Et c'est quand même quelque chose de, je trouve, assez exceptionnel.
Éric.
Les deux vainqueurs du championnat de Calédonie de golf qui s'est déroulé la semaine dernière à Dumbéa. Les deux vainqueurs sont Jaya Darazon chez les garçons et Barbara Amsalem chez les filles, deux golfeurs de Tina. Mm-hmm. Voilà, et c'est à noter, parce qu'après l'hégémonie un petit peu de la Wengi, Tina a repris un petit peu la main. C'est deux beaux golfeurs et je suis très très content pour eux.
Pierre ?
Moi, c'est surtout une pensée attristée pour le décès d'Éric Michalak, qui nous a quittés la semaine dernière, professeur à l'université, puis qui avait quand même s'était investi dans le milieu du sport, du football en particulier, du futsal en particulier. Donc, pensée à sa famille, attristée.
Je vais finir par le mien, de carton rouge, parce que celui-ci, il est énorme. Juste Paredes, le joueur argentin qui s'est battu, on n'a pas vu les images à la télé.
Il a pris un carton rouge après la fin du match.
Il a pris un carton rouge, oui, parce qu'il met...
Donc, c'est pour dire à quel niveau il
met trois taquets. À des joueurs espagnols. Je pense que ce garçon mériterait de voir sa licence retirée.
De ne plus jouer, pour un club.
De faire autre chose. Judo, par exemple, il a l'air d'être pas mal.
Il jouait où avant
il jouait dans
il
un club
Paris,
français.
Hein, c'est ça que tu voulais parler.
On ne va pas chambrer. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. Toutes mes excuses à Léo Fichou qui arrive pour un Info Soir dans un instant. On a un petit peu de retard.
Pour vivre le meilleur du sport, les plus grands matchs, les exclusivités, c'est seulement avec les offres Canal+. Canal+, le partenaire d'une semaine sportive sur Radio Rythme Bleu.